France Info.
Bonjour Fida Bizri.
Bonjour.
Vous êtes actrice et scénariste. Vous avez été adoptée par le public grâce à votre rôle et votre implication aux côtés de Sylvie Baliot dans le drame Moi tout seul. C'était en 2012. Et aujourd'hui, vous êtes à l'affiche du documentaire récit Green Line qui retrace 15 ans de guerre que vous avez connu et subi à Beyrouth, au Liban en tant qu'enfant. Vous avez connu ce que votre grand-mère a appelé d'ailleurs l'enfer rouge, la banalisation de la mort. Cette période vous a marqué à vie, vous plongeant dans un doute permanent du sens et de l'importance de rester en vie. Alors vous êtes allé rencontrer certains, des combattants, des historiens qui ont eux aussi vécu cette guerre. Pour comprendre et mettre des mots sur ce que vous avez vécu, ce film démarre sur la genèse de ce film qui parle de votre pays et de la mort. Un petit personnage, une figurine avec un t-shirt rouge vous représente. Et la première image est associée à un son qui, même derrière l'écran, nous émeut. C'est celui d'une bombe qui explose. Je voudrais que vous me racontiez comment est né ce film.
Ce film est né dans la tête de Sylvie Baliot avant de naître dans la mienne. On s'est rencontrés et elle a eu envie d'essayer de comprendre les guerres du monde un peu à travers moi. On s'est rencontrés à l'occasion d'une guerre au Liban en 2006. Elle a eu envie de faire ce film avant moi. Je viens pas du cinéma, donc j'ai mis du temps à comprendre ce que ça signifiait, mon implication. Dans un premier temps, on parlait, donc je racontais mon enfance. Aller voir les miliciens, ce n'est venu que dans un deuxième, troisième temps.
Vous êtes né en avril 1975 à Beyrouth, quelques jours après le début d'une guerre qui va durer effectivement 15 ans. Pendant ces 15 années d'angoisse, les adultes qui vous entouraient la nommaient les événements. Comment on grandit effectivement avec cette pression? Comment on arrive à s'en sortir, à garder foi en la vie?
Déjà, on l'appelle pas angoisse, on l'appelle la vie. C'était mon enfance, c'était la vie. Et j'avais peut-être la chance de ne pas connaître autre chose, du coup c'était supportable. Pour moi, c'était ça, être en vie. Et il se passe des choses de vie à l'intérieur de la mort aussi, à l'intérieur de la guerre. Et la vie est toujours là, les relations humaines sont là. On met du temps à appeler ça problématique. Moi, je me rappelle, c'était au bout de quelques années en France que j'ai commencé à me dire que c'était peut-être pas ça la vie, et en tout cas pas seulement ça la vie, et qu'il y avait autre chose de possible.
Le matin, vous chantiez l'hymne national du Liban.
Et un jour, l'école,
votre...
oui.
Voilà, et un jour, votre professeur vous a demandé de prendre toutes vos affaires. Ce jour-là, personne n'est venu vous chercher. Dans le film, vous apparaissez à ce moment-là avec un cartable sur le dos et vous nous racontez comment vous êtes retrouvé effectivement seul à l'arrêt de bus, puis dans votre quartier appelé ce fameux enfer rouge. À côté de vous, c'est l'horreur. Vous découvrez des corps morts allongés, les rues sont vides. Vous dites à ce moment-là que vous avez l'impression que tout est faux, que vous avez tout fabriqué, que ça a été en tout cas fabriqué par les adultes et qu'un jour vous sortirez de ce décor.
C'est sûr que j'ai toujours eu l'impression qu'il y a un guide d'utilisation qui me manquait, que je ne comprenais pas vraiment et personne n'expliquait. Mes parents ne savaient pas ce qui se passait. Ils n'avaient pas de version rassurante sur ce qui se passait. Et quand on revenait à l'école non plus, personne n'expliquait rien du tout. Donc cette sensation de ne pas comprendre, ça donne l'impression que c'est faux.
Et pourtant, c'est bien vrai. Des images de cette époque apparaissent, donc des archives montrant des hommes armés longeant les bâtiments. Et le désastre apparaît avec des personnages en terre cuite. Vous apercevez une femme morte à un moment donné, c'est un moment très fort du film, qui est au début du film d'ailleurs, et vous vous allongez à côté d'elle en vous disant « peut-être que moi aussi, il faut que je disparaisse pour ne plus rien sentir ». C'est fou de penser ça à cet âge-là.
Vous, peut-être vous l'appelez mort, dans ma tête, je l'appelais une pause. Une pause de cette incompréhension.
Comment vous expliquez que même les adultes de votre famille, même votre grand-mère, n'arrivaient pas à mettre des mots pour vous expliquer la situation?
J'ai beaucoup de gratitude pour mes parents et ma famille de ne pas avoir mis des mots. Même si quand j'étais petite, j'étais jalouse de mes camarades à l'école qui, eux, tous avaient une version très claire sur qui avait raison et qui avait tort. Du moment que ma famille n'était pas dans un bord précis à tout prix. C'est sûr que c'est plus compliqué à gérer, mais en grandissant, c'est plus intéressant de ne pas être d'un bord aveuglément et de voir l'absurdité de la chose.
En même temps, ce film, il est là aussi pour vous apporter des réponses que vous n'aviez toujours pas reçues et obtenues.
C'est sûr qu'aujourd'hui, après ce film, je me sens avec plus de réponses, ça c'est sûr. Et c'est plus agréable. Mais quand j'étais petite, qu'est-ce que j'aurais pu avoir comme réponse, à part des réponses dans le même paradigme, des réponses de guerre? Il n'y avait pas sur place la possibilité d'avoir une autre parole.
Ce qui reste dans la tête des habitants et de celles et ceux qui ont connu cette guerre, c'est que les 5000 martyrs, parce qu'ils parlent notamment de 5000 martyrs en parlant du samedi noir, ils vous disent qu'ils sont touchés par le fait qu'il y a eu deux moments très forts au Liban qui les ont marqués et qu'effectivement personne n'en est sorti indemne. L'un d'eux dit « l'être humain s'appelle oubli ».
Alors oui, c'est un proverbe libanais. L'étymologie de « humain » et d'oubli est un peu similaire en arabe. Donc il y a ce proverbe qui dit que nous sommes faits pour oublier. De fait, on oublie, mais il y a les traces qui restent. Donc ce travail, chez moi, pour moi, il a travaillé sur la trace. C'est des choses qui ne m'handicapaient pas forcément, mais dont la trace était toujours là. Et de repasser avec plusieurs miliciens, sur plusieurs maquettes, avec plusieurs figurines et des histoires déclinées sur plusieurs personnes, ça permet de repasser sur la trace et de l'augmenter de quelque chose du présent. Et ça, c'est très fort.
Il y a un énorme travail de mémoire hein, qui est effectué à travers ce film. Il y a une main tendue aussi pour celles qui n'ont toujours pas compris ce qui s'était réellement passé. Ça vient casser un peu le manque de réponse, mais le manque d'humanité, le manque de compréhension.
Le manque aussi d'appeler les choses par leur nom. Un mort, c'est un mort. Une vie, c'est une vie. Une bombe, c'est une bombe. De ne pas appeler ça par la cause, de ne pas monter en hauteur pour donner des mots différents aux choses.
C'est ce que vous avez fait pendant assez longtemps d'ailleurs. Hein. D'essayer de prendre de la hauteur, c'est quelque chose que vous avez tenté de faire au cours de ce documentaire.
Alors, quand j'étais petite, je tentais de le faire pour survivre, de prendre de la hauteur, parce que c'était la seule façon pour moi de donner du sens. Et dans le film en particulier, c'était l'idée de Sylvie Balliot d'ancrer, de donner du corps à nos rencontres entre moi et les miliciens à travers ces maquettes. Et réellement, ce sont les maquettes, les figurines qui me permettaient à la fois de prendre de la hauteur parce qu'on est en train de regarder, depuis notre regard d'adulte, on regarde le passé. Donc il y a de la hauteur, mais en même temps, il y a du corps.
Est-ce que vous comprenez que certains préfèrent oublier tant les souvenirs sont douloureux et destructeurs?
Je comprends, mais je pense qu'il faut définir oubli, ce que ça veut dire. Oubli ne veut pas dire qu'on se rappelle pas, parce que moi-même, j'étais quelqu'un qui avait oublié cette histoire, mais tous les détails étaient très présents. En fait, des fois, parler beaucoup de la chose et l'avoir très présente à l'esprit, c'est une forme d'oubli, c'est une forme d'engourdissement de la sensation de ce que ça procure. L'oubli peut avoir plusieurs formes.
Avec ce documentaire, on comprend évidemment mieux les choses. Vous les mettez en exergue. On est un matin de 1975, il y a une ligne verte qui coupe Beyrouth en deux, avec d'un côté les musulmans, c'est Beyrouth Ouest, avec comme tag sur les murs Israël et le mal absolu, et de l'autre, il y a les chrétiens avec des snipers qui tirent, et leur slogan à certains, et chaque Libanais doit tuer un Palestinien. On comprend à quel point encore aujourd'hui, avec les événements actuels, rien n'est terminé. D'ailleurs, une femme vous l'explique, à quel moment on peut considérer que la guerre est terminée. C'est un moment qui est très très fort du film. C'est aussi ça que vous vouliez raconter, que la guerre finalement continue, qu'elle perdure.
Tout à fait. Pas que au Liban. La guerre continue, l'état de guerre continue. Faire ce travail de mémoire, c'est très difficile quand la guerre n'est pas terminée, quand sa propre guerre n'est pas terminée. Moi, peut-être, le fait d'être sortie du Liban me permet de me dire que dans toutes mes guerres, j'ai peut-être eu une pause dans laquelle j'ai pu m'engager dans ce film ou dans une réflexion. Mais quelqu'un qui vit tout le temps sous les bombes, c'est très difficile. Parce qu'en plus, ce travail, ça donne une certaine détente, ce travail de mémoire. Une fois on a nommé certaines choses, on est un peu plus rassuré, on est un peu plus en confiance. Et c'est cette confiance-là qui n'est pas productive en temps de guerre, parce qu'on est plus alerte.
Vous mettez en avant beaucoup votre grand-mère dans ce film. Elle a été un pilier pour vous. Elle vous emmenait dans sa maison qui était tombée du côté de l'Est pour la déboussiérer, pour aussi faire corps avec ces objets qui ont toujours fait partie de sa vie. D'ailleurs, vous le cachiez, elle le cachait à vos parents qu'elle vous emmenait de l'autre côté, avec toute la dangerosité que ça implique, hein, parce qu'effectivement, il y a une ligne verte et ce que vous appelez plus ou moins la frontière. Et à ce moment-là, ça tirait un peu dans tous les sens. Cette grand-mère, elle a été un exemple pour vous, Fida ?
Elle a été un exemple. Exemple pour moi de quelqu'un qui ne parle pas et qui n'a pas les outils pour parler. Pour moi, c'était très important, donc je l'ai toujours gardé en moi comme étant quelqu'un qui n'a pas les moyens de parler, de nommer les choses. De fait, quand je lui demande c'est quoi, c'est mort, elle ne sait pas répondre, elle n'a pas le mot pour ça. C'était comme si je voulais un peu d'éteindre sur elle avec les réponses que moi, je recueillais.
Les habitants finissent par se prêter au jeu hein, au fil de vos questionnements et on vous sent vraiment mais déterminée, Fida, à obtenir des réponses. Vous les affrontez par moments. On vit un peu ces duels de regards, de mots. Il n'y a pas de haussement de ton, mais il y a une fermeté dans ce que vous leur demandez. Vous les poussez vous-même derrière leur dernier retranchement. C'est assez fort, ça. Comment vous l'avez vécu, ça? Le fait d'aller chercher, d'obliger certains hommes qui ont fait partie de la guerre, qui ont inévitablement tiré et tué des personnes, d'assumer et de sortir du déni.
Au début, j'avais peur d'aller les voir, mais par la suite, j'étais très surprise de leur disponibilité dans un vrai échange. Plus je leur donnais la place de parler, plus ils me la donnaient. C'était une sorte de relation de confiance. Je leur permettais de dire ce qu'ils voulaient en les assurant que leur parole sera respectée au montage. Et donc, en échange de ça, ma parole devait être respectée, surtout quand ma parole se cherchait projet et que je ne savais pas. Donc le film retrace un tout petit peu mon cheminement, parce qu'au début je suis dans l'écoute et ensuite je questionne un peu plus, et de plus en plus je peux confronter, ou je peux à la fin essayer d'être en train de poser des questions, pas pour confronter, mais pour qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant.
Je voudrais que vous nous racontiez le fil rouge de ce documentaire. C'est un jour un soldat qui se retrouve face à vous avec un fusil qui est pointé sur vous. Et à ce moment-là, vous disparaissez. Vous expliquez que vous l'affrontez finalement sans armes, mais avec le regard. Et vous comprenez dans son regard qu'il a une fêlure. Et donc, vous vous faites toute petite à ce moment-là, avec vos yeux, pour essayer de le convaincre qu'il ne faut pas qu'il tire. Et votre quête, c'est de retrouver ce soldat, d'essayer de comprendre pourquoi il n'a pas tiré et surtout d'essayer de comprendre qui il était.
Alors vous me perturbez parce que c'est pas comme ça que je me raconte l'histoire.
Quand vous la racontez, cette histoire-là ?
Vous avez parlé de travail de mémoire. Une des choses les plus difficiles, même quand on n'a pas oublié, parce que moi je n'avais rien oublié de toutes ces histoires-là, c'est de savoir avec quels mots les dire, ces choses-là. Est-ce que je les dirais avec des mots journalistiques et du coup je vais faire une recherche pour les dire ? Et je n'ai trouvé, avec Sylvie Baliot, la réalisatrice, que la poésie pour réaccéder à mon sentiment. Et j'essayais de décortiquer un peu par l'outil de la poésie, mais qu'est-ce qui se passait en fait à l'intérieur de moi. Et je me suis rappelée de cette rencontre à la sortie de l'école, et le mot peur ne me venait pas, parce que c'est pas un mot que je m'étais dit quand j'étais petite, même si bien entendu c'était de la peur quand on sort de l'école et que je vois un milicien qui tient une arme, c'est effrayant. Maintenant je le dis, mais à l'époque je ne savais pas que ça s'appelait peur. Et donc, du coup, j'ai essayé de revenir dans le passé, essayer de faire pas à pas qu'est-ce que j'ai ressenti. Ce que j'ai ressenti, c'était cette image-là que je voulais rentrer. Je voulais rentrer en lui, je voulais essayer de comprendre d'où il vient. Donc, mon réflexe, c'était pas de me faire petite pour disparaître. Mon réflexe, c'était, tu te présentes comme un ennemi parce que tu fais peur, mais en réalité, j'ai besoin d'en savoir plus.
Quand les miliciens prennent la parole, ce qu'ils racontent, c'est que, en temps de guerre, peu importe ce qu'on pense, finalement, on est obligé, de par notre entourage, de par aussi la pression qu'on peut avoir par les personnes qui nous dirigent, de tirer le premier. Parce que l'idée, c'est de survivre. S'il ne doit en rester qu'un, ça ne peut être que nous. C'est très perturbant. Il y a un petit côté à l'Ouest, rien de nouveau, d'Éric Maria Remarque, qui racontait déjà pendant la Première Guerre mondiale à quel point la majorité des soldats n'avaient pas envie d'être là. Ils n'avaient pas souhaité combattre. Ils n'étaient pas forcément pour la guerre. C'est très fort, ça aussi, dans ce film. C'est ce que vous vouliez mettre en avant. C'est que effectivement, certains ont tiré, certains ont tué, mais pour survivre, sans forcément avoir envie de le faire.
Moi, ce que j'ai compris de toutes ces rencontres avec les miliciens, c'est que sur un champ de bataille, c'est déjà très très tard pour parler de vie. Et que la solution, elle n'est pas à chercher sur le champ de bataille, elle est peut-être à chercher bien en amont, de ne pas se retrouver en situation où c'est soit moi, soit toi. Et forcément, là, dans ce contexte, qui sait qui va tirer en premier ? Mais de ne pas y arriver.
Vous parlez aussi de l'évolution d'un conflit. Au départ, il y a effectivement Beyrouth-Ouest, Beyrouth-Est. Et après, il y a des clans qui se créent dans chacun des Beyrouths. Ça montre effectivement à quel point rien n'est compréhensible. Que la guerre est là, c'est un problème de pouvoir, c'est un problème de bien. C'est incompréhensible. Et celles et ceux qui sont décisionnaires, finalement, ne sont pas sur le terrain, sur le champ de bataille.
En tout cas, pour un enfant, rien n'est compréhensible. Mais pour un bailleur de fonds, c'est compréhensible. C'est le plan qui a été dessiné. Mais effectivement, c'est très particulier Beyrouth-Ouest, parce qu'il y avait l'Est et l'Ouest. Déjà, c'était une coupure, mais à l'intérieur de l'Est, il y avait beaucoup de factions qui s'entretuaient. D'où cette exposition un peu particulière à des événements de guerre. Parce que moi, j'ai des amis libanais qui n'ont pas forcément été exposés à tout ça s'ils ont vécu dans un autre quartier que là où j'habitais.
Ce que raconte d'ailleurs un soldat, c'est qu'en dehors des tirs et des périodes où c'était un petit peu compliqué, il allait danser dans d'autres quartiers qui, pour le coup, était très très loin des conflits. Ce que ça met aussi en exergue, et c'est très important, c'est à quel point les guerres n'épargnent absolument pas les enfants. À quel point la guerre ne tient pas compte des enfants qui, eux, vont devenir adultes et de ce qu'ils peuvent vivre. Vous représentez ça, pour le coup, Fina.
À la projection du film au Liban, la première fois, il y avait les miliciens, et il y en a un parmi eux qui a dit qu'il n'avait jamais pensé à la version d'un enfant de ce qui se passait. Il avait pensé à la version de d'autres camps ennemis, comment eux, ils pourraient redire son geste, le redéfinir, mais il n'avait pas pensé à comment un enfant pourrait le redéfinir.
Vous gardez quoi de cette enfance, alors ?
Aujourd'hui, j'ai envie de garder de la poésie. Je garde aussi que j'ai eu peur. J'ai mis longtemps à me dire que ça s'appelait de la peur, ce que je ressentais. C'était plusieurs années après la guerre que j'ai appelé ça peur. La chose la plus forte que je garde du film, en tout cas, c'est que la peur, c'est un matériau vivant qui se travaille. Ce n'est pas une malédiction.
220 000 personnes sont mortes dans ce conflit, en 15 ans. L'un d'entre eux dit quelque chose de très fort et dit qu'il savait qu'il ne tirait pas des fleurs de l'amour, mais des balles qui servaient à tuer. Vous espérez quoi ? On vous voit à la fin du film dans une manifestation. Le peuple lutte pour faire tomber le système, faire tomber le régime. Il y a à la fois de l'espoir et du désespoir. Quelle est votre vision de l'avenir ?
Je préfère répondre à ce que j'espère. J'espère moins de manichéisme et plus de sensibilité et un vrai travail pour chercher des mots à mettre sur les choses. Parce que une douleur, ce n'est pas la bombe qui a tué mon fils, par exemple, autant que ce que cette bombe m'a fait à l'intérieur, la trace qu'elle a laissée à l'intérieur de moi. Et pour ça, on a très peu de mots. Donc peut-être commencer une histoire plus intérieure, plus corporelle, plus sur les traces, de dire ce que ça me fait.
La France vous fait du bien ?
La France me fait du bien. En tout cas, mon passage en France m'a fait du bien.
Ça a permis de vous poser les vraies bonnes questions, d'affronter aussi un peu ?
M'a permis de prendre une pause de tout ça et surtout de prendre du recul, de sortir un tout petit peu. En fait, ce que j'aime dans la France, c'est le décalage, le fait de faire un pas de côté, de sortir. Et je trouve ça, que ce soit en France ou ailleurs, je trouve ça très enrichissant pour mieux comprendre son histoire, de pouvoir faire un pas de côté, d'avoir la possibilité de sortir et de rentrer.
Pour terminer, est-ce que ce documentaire vous a permis de vous alléger, de vous faire du bien ?
Absolument. Alors que je ne m'attendais pas à ça, je ne demandais pas à ce documentaire de m'alléger. Mais sans doute, c'est sûr. Et m'a donné du vocabulaire personnel, m'a obligé à chercher mon propre vocabulaire pour parler de ce que je ressentais.
Green Line, parce que c'était la frontière, la coulée verte, l'endroit où justement les deux camps étaient séparés et là où effectivement il ne se passait rien, mais finalement beaucoup de choses. Merci beaucoup, Fida Bizri, d'être passée
dans le monde.
Élodie sur France Info, Green Line de Sylvie Baliot au cinéma. Merci infiniment.
Merci beaucoup.